Nous avons demandé à ce que nous puissions refléter quelque chose du Seigneur Jésus. Et c'est bien à désirer, quand, aussi dans ce que nous avons chanté, quand nous avons considéré tout ce qu'il a fait pour nous. Et quelle joie pour nous de voir toutes ces bénédictions qu'il nous a apportées. Et alors combien nous pouvons bien désirer le suivre, désirer le refléter, lui qui nous a tant aimés. Et j'avais devant moi peut-être un côté seulement, un petit côté que l'on pourrait refléter. Le Seigneur est infini, mais on ne considérera que le côté du berger. On a aussi parlé du bon berger dans nos cantiques. Pourrions considérer quelque chose de ce que sont les bergers et de ce que cela requiert. Nous pouvons commencer par le premier berger de la parole dans Genèse 4. Au verset 4. Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Il ne nous est pas dit grand-chose d'Abel, mais le peu qui nous en est dit nous permet de discerner un caractère que doit manifester un berger. Il avait un troupeau et il apporte des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse à l'Éternel. Autrement dit, son but comme berger était de plaire à Dieu et d'offrir à Dieu quelque chose de ce service de berger. Évidemment, ce n'est pas l'explication classique que l'on donne à ce passage. L'autre explication de cette offrande qui est de la façon de s'approcher de Dieu qui nécessite un sacrifice. Ce n'est pas ça que je voudrais considérer, mais plutôt que Abel apporte à Dieu quelque chose de son troupeau et l'offre à Dieu comme quelque chose qui plaît à Dieu. Je voudrais lire un verset pour comprendre cette pensée. Dans Romains 15. Romains 15, verset 16, la fin du verset 15. « La grâce m'a été donnée par Dieu pour que je sois ministre du Christ Jésus envers les nations, exerçant la sacrificature dans l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. » Le service de Paul était de présenter l'évangile aux nations pour amener des âmes à Dieu d'entre les nations. Et il parle de ce service comme étant en fait le résultat est une offrande, l'offrande des nations qui est agréable à Dieu. Et peut-être nous avons un peu cette pensée avec Abel, qui apporte un fruit de son troupeau pour le plaisir de Dieu. Le caractère que nous avons là est donc que le berger a un but, et le but dans son service c'est la gloire de Dieu. C'est que le résultat de son service soit la gloire de Dieu. Un premier caractère. Quelque chose de tout à fait différent que nous avons un peu plus loin dans la Genèse. Il s'agit de Jacob. Nous n'allons prendre qu'un verset ou deux qui montre lui qui était berger aussi. Une petite dégression au passage. Abel avait un frère aîné, Caïn. Jacob a un frère aîné, Ésaü. Et on voit que, selon 1 Corinthiens 15, verset 46, il est dit que ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Les deux premiers évoquent l'homme selon la chair. Et Abel et Jacob évoquent l'homme selon l'esprit, même si Jacob a eu une marche chaotique. Ce n'était pas un incrédule comme Ésaïe. Il attachait du prix au premier-né, au privilège du premier-né, une bénédiction spéciale de Dieu. Il y attachait du prix, alors qu'Ésaïe méprisait cela. Hébreu nous dit ce qu'il en est d'Ésaïe à ce sujet. Mais donc, quelle que soit la marche de Jacob, il était un croyant. Donc nous passons sur sa marche chaotique. Nous relevons juste un verset dans Genèse 33 qui nous montre un des caractères que doit avoir le berger. C'est lorsqu'il s'agit de la rencontre avec Ésaü. Il était très effrayé de rencontrer son frère après ce qu'il lui avait fait. Et dans cette rencontre, il doit répondre à Ésaü qui lui proposait quelque chose. Au verset 13, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que je suis chargé de menu et de gros bétail qui allaitent. Et si on les presse un seul jour, ils mourront, tout le troupeau. Que mon Seigneur, je te prie, passe devant son serviteur, et moi je cheminerai tout doucement au pas de ce bétail qui est devant moi, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive auprès de mon Seigneur à Séhir. » Bien sûr, on dira, c'est une manigance de Jacob, c'est évident, pour fuir son frère Ésaü, parce que sa conscience n'est toujours pas claire. Bien que Genèse 32 ait eu lieu, Péniel, il lui reste encore une conscience qui n'est pas à l'aise tout à fait. Et pour fuir Ésaü, il le laisse partir, et lui, il va tout doucement, puis en fait, il va bifurquer, il ne va pas tenir sa parole. Néanmoins, nous relevons ces deux points, qu'il est chargé de menu et de gros bétail qui allaitent, et qu'il ne faut pas presser, et il marchera au pas de ce bétail qui est devant moi et au pas des enfants. Le berger a soin de chacune des brebis et tient compte des plus faibles, de celles qui vont plus doucement que d'autres. Et c'est quelque chose qui doit nous caractériser aussi, lorsque nous avons des exercices collectifs, de bien tenir compte de ceux qui peut-être ont de la peine à marcher au même pas. Il faut peut-être ralentir ensemble, pour marcher au, pour ne pas presser quelqu'un dans sa conscience qui pourrait le faire chuter. Et ce temps où l'on va plus doucement, c'est un temps justement où on peut, le berger peut s'approcher près de ses brebis plus faibles qui bataillent pour l'encourager, pour le fortifier, pour lui apporter les soins nécessaires, l'amener à comprendre, pour le fortifier, pour qu'il puisse peut-être, en étant fortifié, de marcher au pas auquel il faudrait marcher. Donc c'est un caractère aussi important à saisir pour exercer ce si précieux service de berger. Nous passons un peu plus loin pour voir un autre berger. En Exode, au tout début d'Exode, en Exode 2, ce berger s'appelle Moïse. Donc nous passons, c'est suite à l'affaire où il avait cherché à défendre un des Israélites contre un Égyptien. Il avait tué l'Égyptien, l'avait caché. La chose s'était sue, le pharaon voulait le faire mourir et il avait dû fuir d'Égypte pour aller assez loin au pays de Madian, de l'autre côté du Sinaï. Et là, on le voit ici, au chapitre 2, verset 16, fin du verset 15, il s'assit près d'un puits. Or, le sacrificateur de Madian avait 7 filles, et elles vinrent et puisèrent et remplirent les auges pour abreuver le bétail de leur père. Et les bergers vinrent et les chassèrent. Et Moïse se leva et le secourut, et abreuva leur bétail. C'est la première fois où on le voit en rapport avec la question du bétail. Il prend pitié de celle qui était molestée et du bétail de celle qui était molestée par d'autres bergers madianites qui avaient de la dureté, et il prend leur défense et les secours. Et non seulement les secours, mais abreuve leur bétail. Il nous rappelle son aïeul, Rebecca, qui c'était le signe pour le serviteur d'Abraham que c'était celle qui était désignée pour Isaac. C'est ce dévouement et cet empressement pour répondre aux besoins de ceux qui ont soif. Il y a donc une notion de dévouement et de compassion. La pitié de ses filles et de ses bergères et de leurs troupeaux. Il prend leur défense pour venir que ces troupeaux puissent se rafraîchir. Ce côté de la compassion, on va le revoir. Mais on peut le voir déjà ici dans ce qui est dit, le peu qui est dit de Moïse à ce moment-là. Et ce dévouement. Donc on a le but, le premier but, c'est la gloire de Dieu. On a cette compassion que l'on pouvait voir aussi en Jacob par rapport aux plus faibles. Ici, on l'a aussi et on a ce dévouement pour pour les brebis assoiffées. Alors il est dit ensuite au chapitre 3 que Moïse, pendant ses 40 ans, il va être un berger. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il faisait paître le bétail. Ça, c'est un point important. Il conduit, faire paître le bétail, c'est le conduire le bétail à l'endroit idéal pour que le bétail puisse se nourrir. On ne va pas le conduire dans un endroit où il n'y a que des cailloux. Psaume 23, il me conduit dans de verts pâturages. C'est là où nous devons conduire le bétail pour qu'il puisse se nourrir d'une nourriture saine, riche. Il ne faut pas se contenter, comme dit l'apôtre, des premiers rudiments de la parole. Il faut avancer, il faut que la nourriture s'enrichisse. Le but, c'est d'édifier et de fortifier et d'avancer vers l'état d'homme fait. Et pour avancer vers l'état d'homme fait, il ne faut pas se contenter des rudiments, des choses basiques, nécessaires. On les renie pas, mais il faut avancer. Il ne faut pas se nourrir seulement de lait, mais de nourriture solide. C'est le travail du berger. Il va faire paître le troupeau dans ces endroits-là, indiquer là où est la nourriture solide. Si je vous dis BibliQuest, vous aurez de la nourriture solide. Là, on voit qu'il fait paître seulement. On va voir la nuance. Il fait paître seulement. On avance un petit peu pour voir un autre côté. C'est au chapitre 18. Donc le peuple est maintenant sorti, a été racheté. Et au chapitre 18, il y a tout un peuple qui est là. Et il est dit au verset 13, « Et il arriva le lendemain que Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint auprès de Moïse depuis le matin jusqu'au soir. » Verset 15, Moïse dit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu, et quand ils ont quelque affaire, on vient à moi, et je juge entre l'un et l'autre, et je leur fais connaître les statuts de Dieu et les lois, et ses lois. Nous remarquons là un côté, donc un caractère de ce berger qui était à la tête d'un grand peuple, ce caractère du dévouement. On le voit seul, avec ce grand peuple, où beaucoup venaient à lui quand ils avaient quelque affaire, et qu'il y avait besoin d'un conseil ou de juger entre une chose et une autre, d'apporter une réponse à des questions qui étaient difficiles. On venait à Moïse et il était disponible. Il était là disponible pour tout le peuple. Et dans un dévouement qui exceptionnel. Exceptionnel, pourquoi? Si nous lisons au chapitre 14 et 15, juste deux expressions au sujet de ce peuple par rapport à Moïse. Quelle était l'attitude du peuple par rapport à Moïse ? Fin du chapitre 14, tout à la fin. Le peuple craignit l'Éternel et ils crurent à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Chapitre 15. Après avoir fait trois pas dans le désert, ils arrivent à Mara. Verset 24. Et le peuple murmura contre Moïse. Juste quelques jours après, ils crurent à l'Éternel et à Moïse, son serviteur, et tout de suite après, ils murmurent contre Moïse. Et ça va être une caractéristique du peuple tout le long des nombres, tout le long du désert, à murmurer contre Moïse. C'est dans ce contexte que l'on peut dire que ce dévouement est exceptionnel. Parce que malgré tous les murmures et toute la rébellion du peuple contre Moïse, on voit Moïse s'asseoir disponible pour le peuple et répondre aux besoins spécifiques de l'un et de l'autre. Je juge entre l'un et l'autre. C'est donc un caractère nécessaire pour exercer la tâche de berger, de conducteur. Se renoncer en soi-même, c'est se dévouer au peuple. Nous passons à un autre berger, nous ne pouvons pas. Le but n'est pas de voir le détail de la vie des uns et des autres. Nous passons au berger suivant, à David. Dans le premier livre de Samuel, c'est dans l'histoire où Samuel doit oindre un roi pour Israël à la place de Saül. Il y a tous les fils d'Isaïe qui passent devant Samuel. Samuel, regardant l'apparence, dit « Oh ben, le premier, c'est celui-là, vu sa prestance. » Mais non. Mais, verset 11, 1 Samuel 16, verset 11, « Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous les jeunes gens ?» Et il dit, il reste encore le plus jeune, et voici, il paie le menu bétail. Donc on envoie faire venir David, verset 12, il avait le teint rosé, avait de beaux yeux, était beau de visage. L'Éternel dit, lève-toi, oins-le, car c'est celui-là. Saül n'était pas berger. Il aurait dû l'être, il était le conducteur du troupeau d'Israël. Mais il n'en avait pas les caractères, aucun. Il avait de la dureté. On verrait beaucoup de passages, mais on ne va pas se disperser. En revanche, voilà, l'Éternel avait posé ses yeux sur David pour conduire le peuple, pour conduire tout le peuple d'Israël. Et David avait ce caractère de berger. Et c'est ce qu'il fallait pour conduire un peuple. Les frères de David étaient des hommes de guerre. Humainement parlant, on dit, oui, c'est ça qu'il faut pour conduire un peuple, pour qu'ils puissent les défendre par la force de l'homme. Non, pour le peuple de Dieu, il faut un berger qui puisse être conduit dans les voies de Dieu. Et David avait ce caractère-là. David, il est dit, verset 11, au milieu, « Et voici, il paît le menu bétail. » Il n'est pas dit comme Moïse, « Il fait paître le menu bétail. » Il est dit, « Il paît le menu bétail. » Dans un cas comme pour Moïse, c'est « Il les mène à l'endroit où il est nécessaire, pour qui convient au bétail, mais c'est tout. On va dire qu'il les surveille de loin, il les surveille globalement. David, il paie le menu bétail. Autrement dit, il s'occupe de chaque brebis, telle qui a besoin d'être soignée, qui a une patte blessée, telle qui a l'air de se disperser, la ramener. Tel qui est fatigué, qu'il faut fortifier, tel qui a du mal à marcher, qu'il faut porter. Paître, c'est apporter le soin à chacun. Ce n'est pas global, ce n'est pas collectif, c'est des soins individuels. Faire paître et paître, ce n'est pas la même chose. Et le Seigneur a dit à Pierre, « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » Il devait s'engager directement pour chacune. Il ne fallait pas les faire paître, mais être impliqué soi-même, lui-même dans les soins qu'il devait apporter au troupeau, aux brebis. C'est ce côté de, ici pour David, le côté de l'amour des âmes, l'amour des brebis et la compassion pour chacune. Et on le voit aussi au chapitre 17, verset 34, quand il s'avançait pour aller contre Goliath. Et Saül lui dit, mais non, tu peux pas, tu peux pas aller. C'est un homme de guerre, un grand homme. Et toi, tu es petit, c'est pas toi qu'il faut. Alors, il peut dire quelque chose, témoigner d'une chose qu'il était certainement qu'il n'avait jamais dite à personne. Verset 34. Et David dit à Saül, ton serviteur paissait le menu bétail de son père, et un lion vint et un ours, et il enleva un mouton du troupeau. Et je sortis après lui et je le frappai, et je délivrai le mouton de sa gueule, et il se leva contre moi, et je le saisis par sa barbe et le frappai et le tuai. Ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux. David, il semble qu'il était le dernier, le petit dernier, trop jeune pour avoir estimé digne de venir à la table de Samuel, le prophète. Seuls les aînés avaient été invités. Lui, aux yeux des hommes, n'était rien. Il était un petit jeune. Eh bien, pour un petit jeune, quelle énergie! Qui aurait fait ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait montre qu'il, comme le dit l'apôtre, qu'il ne faisait aucun cas de sa vie. Il allait au-devant d'une mort certaine, un lion, un ours. Il ne faisait aucun cas de sa vie. Ses yeux étaient fixés sur sa brebis, qui était en train de se faire prendre, et il ne regardait pas l'ours ni le lion. et il y va au péril de sa vie. Il l'arrache de la gueule du lion ou de l'ours. Il y a l'énergie de la foi, mais surtout l'énergie de l'amour pour ses brebis. Caractère du berger, caractère supplémentaire. On a vu la compassion, le dévouement. On a l'énergie de l'amour pour ses brebis. Un caractère qu'on n'a pas relevé, mais qui se trouvait avec Jacob, par exemple, quand il menait son troupeau doucement. Je l'ai oublié de le mentionner, c'est la patience. Des fois, on est impatient quand ça va trop doucement. Dans certains exercices difficiles, j'en sais quelque chose, j'ai moi-même été impatient en son temps. Il manquait ça, il manquait cette patience. L'apôtre, peut-être on peut le lire dans 2 Corinthiens 6, concernant les serviteurs. C'est au sens large, c'est pas seulement pour les bergers, c'est pour les serviteurs au sens large. 2 Corinthiens 6, verset 4. En toute chose, nous recommandant comme serviteurs de Dieu par une grande patience. Des fois, il y a des exercices qui nécessitent une grande patience pour marcher au pas des brebis. Et pour qu'aucune ne s'égare. Voilà, c'est compassion, amour pour les brebis, avec tout premièrement le but, la gloire de Dieu, le dévouement, l'énergie de l'amour. Voilà ce qui est nécessaire pour être un berger. Nous pourrions considérer rapidement, parce que c'est moins édifiant, on va dire, mais nécessaire quand même, un contre-exemple en Ézéchiel 34. Verset 1. Ézéchiel 34, verset 1, « Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. » Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, « Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau ? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de la laine, vous vous égorgez ce qui est engraissé et vous ne paissez pas le troupeau. Un peu plus loin, verset 8, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis ont été une proie et que mes brebis ont été la pâture de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, et que mes pasteurs n'ont pas cherché mes brebis, mais que les pasteurs se paissent eux-mêmes et ne paissaient pas les brebis, etc. » Voilà ce qui était advenu en Israël. Les pasteurs ici, ce sont ceux qui étaient à la tête du peuple, le roi le premier, les princes, les sacrificateurs, les prophètes, ceux qui devaient conduire le peuple. Voilà le constat qui est fait, que fait l'Éternel, c'est que les pasteurs se paissaient eux-mêmes et ne tenaient aucun compte du troupeau, aucune compassion, aucun dévouement, égoïsme, Au lieu de se dévouer pour les brebis, c'était tout pour soi, on se paissait soi-même sur le dos des brebis, on mange leur graisse, on s'habille de leur laine. C'est quelque chose dans la chrétienté qui, hélas, a encore cours. Mais nous avons à prendre ces paroles pour nous-mêmes, en premier lieu. C'est qu'au lieu d'exercer le service qui était attendu, on n'avait plus, on ne voyait plus, on ne regardait plus aux brebis, on se regardait soi-même, c'était l'égoïsme, la dureté, parce que l'égoïsme rend dur envers les autres. C'est moi d'abord, les autres. Et si les autres gênent, on les éjecte. Et ils en étaient arrivés là. Alors, c'est le contre-exemple à ne pas suivre. Ce sont les caractères opposés à ceux que l'on a vus. C'est ça qui les caractérise. Soyons gardés de tels caractères. Mais voilà, l'Éternel dit, verset 11, « Me voici, moi, je rechercherai mes brebis, j'en prendrai soin, comme un berger prend soin de son troupeau, au jour où il est au milieu de ses brebis dispersées. Je prendrai soin de mes brebis, je les sauverai de tous les lieux où elles ont été dispersées, etc. » Verset 15, « Moi-même, je paîtrai mes brebis, et moi, je les ferai reposer. » C'est Dieu lui-même qui prend la relève. Quand ses serviteurs sur la terre faillissent complètement, lui reste fidèle. Parce que lui voit toujours ses brebis. Et celles qui sont délaissées, il s'engage lui-même à les paître lui-même. Moi-même, je paîtrai mes brebis. Et le Seigneur, c'est toujours son office aujourd'hui. Voici, moi je suis avec vous tous les jours et il est ce bon berger de Jean 10 qui prend soin de ses brebis. Et aujourd'hui, toujours, même s'il est dans le ciel, il prend soin de chacune des brebis. Ceux qui ne nous dispensent pas de faire ce service qui nous est demandé. Or, non seulement les chefs du peuple portaient ces caractères contraires à ceux qu'ils auraient dû porter, mais même dans le troupeau, verset 17, il s'adresse maintenant au troupeau, « Mais vous, mon troupeau, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je juge entre brebis et brebis, etc. » Encore un peu plus loin, voici, moi je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous poussez du côté et de l'épaule et que vous heurtez de vos cornes contre toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez dispersées au dehors. Quel terrible état. Donc, le troupeau se trouvait, suite certainement, à la défection des chefs du peuple. Des pasteurs qui auraient dû paître le troupeau. Ils étaient égoïstes, eh bien ce caractère va se retrouver dans le troupeau, entre brebis. C'est terrible. Les brebis ne peuvent pas se paître l'une l'autre, prendre soin l'une de l'autre. Il faut un pasteur, il faut le Seigneur. Pour que le troupeau soit paisible, que le troupeau ne soit pas laissé à lui-même, parce que c'est ce qu'il arrive après, ces choses, on se dispute, on se heurte, on se pousse d'un côté, de l'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui parte, qui se disperse au loin. Ceci dit, entre digressions, c'est pas parce que quand on pousse quelqu'un, quand on cogne quelqu'un, c'est sûr que ça le disperse. Mais on ne peut pas dire que si une brebis s'est dispersée, c'est parce qu'on l'a poussée. Il peut y avoir d'autres causes. Il faut toujours faire attention dans les questions de relation de cause à effet, d'être prudent. C'était le contre-exemple. Et voilà au verset 23 de Ézéchiel 34. « Je susciterai sur eux un pasteur qui les paîtra. Mon serviteur David, lui les paîtra et lui sera leur pasteur. » Bien entendu, il s'agit ici de non pas de David lui-même qui a vécu à peu près 4 siècles auparavant, mais du fils de David. Et quand on parle du fils de David et du caractère de berger, on arrive à Jean 10, bien sûr. Nous ne lisons qu'un verset, hein, pour ne pas... Le temps passe vite. Verset 15, à la moitié du verset 15, voilà la caractéristique particulière de ce berger. Je mets ma vie pour les brebis. Je mets ma vie pour les brebis. On en a déjà parlé précédemment tout à l'heure. C'est ce côté du dévouement et de qui va jusqu'à au renoncement à soi, et comme le disait l'apôtre, je ne fais aucun cas de ma vie. Pour nous, l'application pour nous. Parce que bien sûr que dans je mets ma vie pour les brebis, nous pensons à la croix. Chose laquelle nous ne pouvons pas imiter. Mais ce que nous pouvons imiter, c'est ce qu'était le Seigneur dans toute sa vie sur la terre. On ne le voit jamais prendre un moment pour lui. On peut dire que sa vie était entièrement consacrée aux brebis. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il mettait sa vie pour les brebis. Sa vie était entièrement orientée, si l'on peut dire, pour les brebis. Et c'est cela qui est requis pour nous, pour un berger. Qu'il soit disponible et que parfois, si... On est fatigué, on aimerait bien se reposer un peu, débrayer un peu. On en a besoin. Et puis voilà qu'à ce moment-là, peut-être on entend dire que telle brebis a besoin d'encouragement, telle brebis est seule, telle brebis est malade, telle brebis est dans une grande peine. Eh bien, laisser sa vie... Ce petit moment que l'on aurait désiré pour soi-même, on l'oublie. Et pour l'amour de la brebis, on va faire cette visite nécessaire. On n'y perd jamais, on y gagne toujours. Visiter une brebis, c'est toujours un rafraîchissement. Pour la brebis et pour le berger, très souvent. C'est l'encouragement que le Seigneur donne dans ce service. Un des caractères du Seigneur par rapport à ses brebis, dans... Marc 6, verset 34. Jésus étant sorti vit une grande foule et il fut ému de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Oui, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, au milieu de son peuple, les siens ne l'ont pas reçu. On comprend l'état dans lequel était le peuple. Au point qu'elles étaient des brebis qui n'avaient pas de berger. Alors, ému de compassion, il se met à les enseigner, leur donner la nourriture dont elles manquaient. Le côté de l'enseignement est très important. Pour le berger, on l'a vu avec Moïse, le côté de faire paître dans des pâturages qui sont riches. Le côté de l'enseignement est capital pour un berger. D'enseigner la brebis. On ne peut pas visiter un frère, une sœur malade sans ouvrir la parole. Ce côté des brebis dispersées, Moïse en avait déjà en nombre 27, le souci que ces choses n'arrivent pas. Là encore, Moïse avait dû avoir affaire avec un peuple rebelle tout au long de sa marche, et à cause de ce peuple, de la rébellion de ce peuple, il s'était hélas hérité un jour. Dieu, à cause de cela, lui avait dit qu'il ne passerait pas le Jourdain, qu'il n'entrerait pas dans le pays, à cause du troupeau. Moïse se soumet et nous voyons en nombre 27. Donc c'est au moment, à la fin du désert, au moment de près d'entrer dans le pays, lui, il sait qu'il n'ira pas plus loin. Et quel est son souci? Verset 15, « Moïse parla à l'Éternel, disant « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et entre devant eux et qu'il les fasse sortir et les fasse entrer. » Et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il avait malgré tout ce que ce peuple lui avait occasionné, je mets des guillemets, punition, je ne sais pas quel mot prendre, malgré cela, il a un souci tel qu'il supplie l'Éternel de ne pas les laisser comme un troupeau qui n'a pas de berger, mais de susciter un homme après lui. C'est un exercice. L'exercice du berger n'est pas égoïste, n'est pas égocentrique. Il ne regarde pas à son malheur, il ne peut pas entrer dans le pays, etc. Et c'est à cause d'eux, non ? Son seul souci, c'est le bien de ce troupeau, justement. Et ce côté de la compassion du troupeau, c'est un côté fondamental pour être berger. Il faut avancer. Acte 20. Nous avons vu beaucoup de bergers dans l'Ancien Testament. Nous avons vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Juste deux exemples. Verset 28, acte 20, 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. » Il dit cela aux anciens, aux surveillants. D'avoir ce caractère de berger. De surveiller le troupeau comme, alors non pas comme Moïse pour faire paître, mais pour paître, pour veiller sur chaque âme individuellement et non pas sur un troupeau globalement comme ça, collectif, sans entrer dans les détails, qui est une chose importante, mais le caractère du berger va plus loin et encore une fois, il s'occupe des âmes individuellement. Voilà ce qui était requis pour les surveillants. Et c'est ce que l'apôtre Pierre, bien sûr, tout le monde a ce passage, 1 Pierre 5, où il exhorte les anciens. Au verset 2, il dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous. Le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur les héritages, mais en étant les modèles du troupeau. » Voilà les caractères des surveillants qui correspondent à Acte 20, de paître le troupeau de Dieu, s'occuper de chacun, et que ce ne soit pas une contrainte. Dans l'assemblée, ce n'est pas des hommes à gages. On ne fait pas ça pour un salaire. Le salaire peut être de la reconnaissance envers soi, pas seulement pécuniaire. C'est le profit que l'on tire moralement, spirituellement, de quelque façon, un profit que l'on tire du service. Je ne parle pas des bénédictions que Dieu accorde par rapport à un service qui est selon lui et qui lui plaît. Je parle de l'état du serviteur qui ferait un service non pas pour le Seigneur, mais pour lui-même. Donc, c'est volontairement, ce n'est pas par contrainte, c'est volontairement. Et volontairement, mais pas avec la volonté de l'homme, c'est la disponibilité selon Dieu. C'est le cœur, c'est un service qui est fait pour Dieu et pour les âmes. Un exercice, c'est une disposition volontaire. On a disposé son cœur à cela, non pas pour des gains personnels, mais pour le bien du troupeau, pour le bien des âmes, pour la gloire de Dieu. Voilà, il faut arrêter. Ainsi, nous rappelons que les bergers sont plus que nécessaires dans l'assemblée. Si l'on estimait que, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de berger. Je ne crois pas. Ça serait faire tomber la faute sur le Saint-Esprit dans les dons qu'il offre, dans les dons qu'il distribue à chacun comme il lui plaît. Il y a le pasteur. Et on n'imagine pas le Saint-Esprit ne pas accorder le don nécessaire quand il y a des besoins. Il fait tout pour la gloire de Dieu ici-bas, pour la gloire de Christ ici-bas. Et de son côté, rien ne manque. Donc peut-être que les pasteurs sont bien là, en tout cas les dons que le Saint-Esprit a donnés. Mais encore faut-il les exercer. C'est là où intervient ces caractères que nous avons à rechercher. Peut-être qu'on ne les a pas naturellement, hein, c'est sûr. Mais nous avons des exhortations à être compatissants, à nous aimer les uns les autres, à à se céder, à se supporter l'un l'autre, les exhortations sont là pour qu'on puisse saisir ces caractères nécessaires pour exercer le don, ce don de pasteur, de berger, si nécessaire. Et ces bergers, on l'a vu avec Moïse, il n'est pas nécessaire qu'il commence à 40 ans. Chacun dans sa mesure, dans sa petite mesure peut-être, mais peut exercer, même jeune, ce service qui n'est pas réservé aux frères, j'ouvre des guillemets, qui est bien sûr, les sœurs ont un très grand service pastoral à leur place, très précieux, que Dieu apprécie particulièrement. Mais cela ne dispense pas les frères d'avoir cet exercice de berger pour paître le troupeau qui a besoin de tous les soins. Il y a tellement de... Surtout quand il y a eu des combats, je suis désolé, j'ai encore une pensée. Quand il y a eu des combats, il y a beaucoup de brebis blessées. Juste pour finir, c'est une pensée qu'on avait évoquée lors d'une réunion à Frayer, sauf erreur, au sujet de David en 1 Samuel 17, et qui convient peut-être de rappeler à cet égard, maintenant, à ce sujet des bergers. 1 Samuel 17, verset 40, il s'agit de David qui s'avance contre Goliath. Et David prit son bâton en sa main et se choisit 5 pierres du torrent, 5 pierres lisses et les mit dans le sac de berger qu'il avait dans la poche. David ne met pas les 5 pierres lisses dans la poche. Ça aurait été plus facile à prendre. Il met les 5 pierres lisses dans le sac de berger qu'il avait dans la poche. David, qui va à ce combat typique, on va le voir, on va faire un rapprochement. David a toujours sa pensée d'être berger. Et il a toujours sur lui son sac de berger. Sac de berger, c'est un sac où il peut y avoir des instruments pour réparer, pour guérir, soigner une patte blessée, que sais-je. Il a toujours ça avec lui. Tel est David. Si nous prenons dans Jean 19, qui est l'antitype de ce combat de David contre Goliath, verset 25, Jean 19, 25, « Or près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, donc, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Le moment où il dit cela, c'est juste avant les 3 heures sombres. À la fin des 3 premières heures. Il est au cœur du combat. Le combat a démarré depuis un moment, mais il est au cœur du combat, au seuil d'entrer dans ces heures terribles pour lui, qu'il sait qu'il lui arrive. Pense-t-il à lui ? Il pense à sa mère. Il a de la compassion pour la brebis qui est là, au pied de la croix. Il a, pour ainsi dire, ce sac de berger avec lui. Il est au cœur du combat, et bien il s'occupe de cette brebis blessée. Nous sommes dans des temps fâcheux où les combats ne manquent pas. où les brebis blessées ne manquent pas, brebis que l'on a peut-être blessées soi-même. N'oublions pas ce sac de berger. Ne soyons pas la tête dans le guidon. Il faut sortir. Le combat est là, il faut y penser, il faut exercer, l'exercice est plein, mais ne doit pas occulter ce soin que nous devons avoir pour chacun, chacune, dans ces combats. Que le Seigneur nous y aide.